pueblos y gobiernos del mundo.
No, man.
Para todos.
Buenas noches.
Para todos, todos.
Buenas noches.
Una noche en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino, Radio Campus 106.6 FM.
Bella Colombia. Juillet 1810, la Colombie est alors sous le joug du pouvoir colonial espagnol. Un dîner doit alors avoir lieu entre les frères Morales, représentants de la monarchie espagnole, et Antonio Villavicencio, un fonctionnaire du roi, créole et originaire d'Équateur. Pour honorer sa présence, il est impératif de décorer la salle où se tiendra le dîner. Or, José González Llorente, le fleuriste consulté de nationalité espagnole et dont la boutique se trouve à quelques pas du palais refusera de prêter un vase pour cette réunion entre créoles. L'affaire provoquera une gigantesque rixe dans les rues de Bogota, symbolisant un soulèvement contre les Espagnols dont le règne est de plus en plus contesté, en Europe comme aux Amériques. Une guerre interne durera quelques années, jusqu'au 10 août 1819, date à laquelle le célèbre Simon Bolivar entrera dans la ville de Santa Fe de Bogota avec son armée républicaine. Sera alors proclamée l'indépendance de la Grande Colombie, réunissant la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Panama. C'est à la mort de Bolivar, en 1830, à Santa Marta, sur la côte atlantique colombienne, que ce grand territoire éclatera. La Colombie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'étend du département caribéen de la Guajira, au nord, à la région amazonienne et la ville de Leticia, au sud-est. De la côte pacifique et la région sauvage du Chocó, à l'est, jusqu'au plateau andin et la ville d'Ipiales au sud, à quelques pas de la frontière équatorienne. Cette étendue territoriale, accidentée par le passage, excusez du peu, des trois cordillères andines, explique la diversité culturelle dans ce pays peuplé aujourd'hui par près de 50 millions d'habitants. Les premiers habitants indigènes, les colons espagnols, les populations africaines déportées au moment de l'atroce période esclavagiste, constituent aujourd'hui un patrimoine varié. Wayuu, Guajuros, Arhuacos, Kunas, Kogis, Muiscas, Quimbayas, on dénombre plus de 85 cultures indigènes distinctes sur l'ensemble du territoire. La violence marquera l'histoire du pays au XIXe siècle, nous l'aurons compris, mais aussi au XXe siècle, avec la sécession du Panama dès 1903, qui avec l'aide des États-Unis d'Amérique deviendra indépendant. Les libéraux et les conservateurs se livrent une bataille politique cruelle qui atteindra son paroxysme à partir de 1948 et l'assassinat du populaire homme de gauche Jorge Gaitán. La ville de Bogota connaîtra une période d'émeute et de répression, appelée Bogotazo, qui fera des centaines de morts. Ces incidents marquent le début d'une page noire de la Colombie, à savoir l'époque de la violence. Pression, disparition, séquestration, assassinat sont le quotidien de la population colombienne. L'inégale répartition des terres menée par de puissants et riches propriétaires favorise la création d'un mouvement paysan qui souhaite une réforme agraire. L'interdiction du Parti communiste par le président conservateur Gomez engendrera la création de plusieurs groupes armés. Il s'agit des premiers pas de certains groupes d'autodéfense communistes et paysans, inspirés par la lutte marxiste, puis, plus tard, par les premières victoires de Fidel Castro sur l'île de Cuba. Les groupes d'insurgés s'organisent et résistent dans les départements du Huila et de Tolima. En mai 1964, le président colombien Guillermo Valencia, appuyé par les États-Unis, décide alors de reprendre ses zones par la force. C'est le 27 mai 1964, lors de l'attaque de Marquetalia, que naîtront officiellement les forces armées révolutionnaires colombiennes, plus communément appelées FARC. Naîtront ensuite d'autres groupes rebelles, tels que l'ELN, Ejército de Liberación Nacional, mais aussi le M19, qui sera quant à lui beaucoup plus actif en zone urbaine et dans les quartiers défavorisés. Depuis les années 60, l'armée nationale, les guérillas, mais également les paramilitaires d'extrême droite, créés et armés par le gouvernement pour lutter contre les groupes rebelles, sont engagés dans le conflit armé le plus long du continent américain, qui aura fait plus de 260 000 morts et 7 millions de déplacés. À cela viendra s'ajouter, à partir des années 80, l'essor du trafic de drogue et la production de marijuana et de cocaïne qui servira à alimenter les marchés nord-américains et européens. Les sommes d'argent générées par ce commerce auront raison des nombreux acteurs politiques, économiques et militaires du pays qui sombreront, entre autres, dans la corruption. Le narcotrafic, qui lui n'a pas de patrie à part celle du billet vert, viendra financer à tour de rôle les luttes armées, les paramilitaires, mais aussi les politiques gouvernementales, comme celle de l'ex-président Álvaro Uribe, accusé de liens étroits avec des groupes paramilitaires, mais aussi certains narcotrafiquants célèbres du département d'Antioquia, où il fut gouverneur. Les FARC finiront par avoir du plomb dans l'aile avec la mort en mars 2008 de leur chef historique Manuel Marulanda, présent lors de l'attaque de Marquetalia en 1964, bien que le groupe rebelle représentera toujours l'unité d'environ 10 000 hommes et femmes. En août 2010, Álvaro Uribe passe le pouvoir à son ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, pensant pouvoir continuer sa politique d'ultra-droite. Or, Santos s'éloignera progressivement de la ligne politique de son prédécesseur et tentera d'écrire une nouvelle page historique pour la Colombie, grâce notamment au démantèlement de réseaux de corruption, la dissolution des services de renseignement impliqués dans le narcotrafic, la restitution des terres aux populations déplacées et victimes du conflit armé. En 2011, il engagera un dialogue avec les FARC et l'ELN en vue d'un accord.
Una noche en Latinoamérica, unidos y Torre Latino. Para Radio Campus, 106.6. Le 26 août 2012, dans la maison Piedra del Laguito à La Habana, les FARC et le gouvernement signent le document qui deviendra, 4 ans plus tard, l'accord de paix qui marquera l'histoire de la Colombie. Le montage de cet accord entre les FARC et le gouvernement n'a pas été facile. Cependant, les deux parties avaient une chose en commun, mettre fin au conflit. Les négociations se sont arrêtées plusieurs fois puisque les FARC ne voulaient pas rendre les armes. Finalement, et grâce à la participation des garants de Cuba, de la Norvège et du président vénézuélien, Hugo Chavez, ils se sont mis en accord et les FARC ont accepté de rendre enfin les armes à condition de pouvoir participer à la vie politique et la vie civile, une fois l'accord signé entre les deux parties. Le 12 août 2015, l'accord est prêt à être signé, mais cette version d'essai conduit à l'incertitude de la part des guérilleros et des citoyens. Les guérilleros pensent que leurs représentants ont cédé sur de nombreux points. Le 26 août de la même année, l'accord de paix est finalement signé et quelques jours plus tard, la version provisoire du document est publiée par Télésur et RCN Radio, deux grands médias nationaux. Le 4 septembre 2015, le président Santos et le leader guérillero Timochenko formalisent le début d'un processus de paix à la télévision, un processus qui doit durer des années. Le 2 octobre 2016, lors d'un référendum qui aura connu une abstention record, 50,2% des votants s'expriment contre l'accord de paix, contre 49,7% pour. Ce jour restera marqué dans l'histoire de la Colombie, comme les jours où les Colombiens auront décidé de dire non à la paix et prendront le risque de détruire 4 ans de négociations ainsi que le retour des FARC dans leur camp de base. Malgré l'avis négatif du peuple, le gouvernement colombien décide néanmoins de mettre en place l'accord de paix. Le président Santos justifiera cette décision par la volonté d'entendre les préoccupations des citoyens, n'étant pas favorables avec l'accord et d'une certaine manière prendre en considération leur avis pour modifier celui-ci. Cette décision du gouvernement ne passe pas aux yeux des Colombiens, qui considèrent que les FARC ne peuvent pas avoir le droit de participer à la vie publique après tous les massacres perpétrés. Depuis 2016, certains guérilleros ont pris la décision de rendre les armes de participer à la vie civile. 1200 membres des FARC ont été souscrits à un système de santé. 4500 d'entre eux reçoivent des formations scolaires ou universitaires. Plus de 200 anciens FARC travaillent dans la culture de la banane plantain ainsi que les maniocs afin de s'autofinancer vu l'absence de participation du gouvernement. Pour les ex-combattants des FARC, toute cette activité fait partie d'une économie rapide, d'autoconsommation sans aucun usage commercial. Cependant, ils attendent encore les projets de l'État pour pouvoir travailler et survivre. Selon le New York Times, à cause de cette situation, 2800 ex-combattants n'ont pas trouvé de place dans la vie civile et ils sont retournés au camp. La plupart des guérilleros sont des paysans à qui le gouvernement n'a pas donné de soutien, tel que la création de projets productifs et de la construction de petites entreprises. Certains d'entre eux n'ont pas voulu rendre les armes et sont les responsables du trafic des drogues persistant et des exploitations minières illégales. Ils représentent 30% du bloc oriental, le plus grand des FARC.
Una noche en Latinoamérica, unidos y Tore Latino, para Radio Campus 106.6.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía.
Après toutes ces années, au lieu de devenir la porte qui montrera les chemins pour créer un nouveau pays, un pays sécurisé où les enfants puissent avoir une meilleure éducation, un pays où tout le monde ait les mêmes conditions de vie, l'accord de paix est devenu le responsable des dissensions entre le Colombien qui réclame justice d'une part et ceux qui réclament enfin la paix. Cette perspective amène la Colombie dans un avenir inconnu désolant qui empire. Notamment lors des élections présidentielles de 2018. Les deux candidats, Gustavo Petro et Iván Duque, arrivent en tête au premier tour. Le premier était un ancien sénateur qui, à 58 ans, est devenu le premier candidat de gauche à parvenir au second tour d'une élection présidentielle. Il est notamment connu pour son passé de guérillero. Le candidat du mouvement Colombie humaine avait rejoint à l'âge de 17 ans le mouvement M19. De plus, Gustavo Petro s'est fait remarquer au Parlement en dénonçant la corruption et les liens entre politiques et paramilitaires d'extrême droite. Il a été la cible des tirs juste avant les élections. N'oublions pas que 5 candidats à la présidence de gauche ont été assassinés lors des élections présidentielles au cours de l'histoire en Colombie. Le 12e candidat, Iván Duque, représente la droite colombienne et sera finalement élu avec 54% des suffrages exprimés contre 42% pour son adversaire. Duque est connu surtout pour avoir de bonnes relations avec l'ex-président Álvaro Uribe. Il marque le retour de la droite uribiste au pouvoir et menace la réconciliation nationale, l'exploitation des ressources naturelles et la modification de l'accord de paix. Depuis son mandat, le président Duque a créé une unité spéciale pour suivre les guérilleros qui ont annoncé le retour aux armes et affirme qu'il sera maintenu le compromis avec les ex-combattants qui voudront respecter les accords. Faut-il rappeler qu'avec l'accord de paix, 7000 guérilleros ont rendu les armes et ont créé un parti politique appelé la Force Alternative Révolutionnaire du Commune, ayant pour but une participation active dans les gouvernements et dans la vie sociale? Rodrigo Londoño, représentant du parti FARC, a critiqué le gouvernement du nouveau président et son rôle face aux manifestations sociales. 16 mois après de son élection, Duque fait face à une crise sociale et le rejet de sa politique par l'opinion publique. Pour les FARC, le nouveau président ignore terriblement l'accord de paix et empêche sa mise en place. De plus, il juge la réponse répressive de la part du président vers l'usage démesuré de la sécurité de l'État et de l'ESMAD, Escadron Mobile Antitrouble. Un de ces indicateurs qui montre les difficultés de la mise en place de la paix est le nombre d'ex-guérilleros assassinés depuis la signature de cet accord. 167 d'entre eux depuis novembre 2016. On ne connaît pas les responsables, ni s'il s'agit des forces armées colombiennes. De plus, Duque a réduit le budget à 149 millions de dollars pour le rapprochement territorial, la réforme rurale ou le plan national intégral de substitution, alors qu'a augmenté celui pour la défense territoriale. Nous ne pouvons jamais oublier un des pires fantômes du conflit colombien, le falsos positivos, les faux positifs. On appelle faux positifs aux exécutions extrajudiciaires par des policiers de l'État contre la population civile. Ils tuaient et avisaient leurs victimes avec des tenues de la guérilla pour les faire passer pour des véritables combattants. Cette horrible pratique a été utilisée pendant les gouvernements de l'ex-président Álvaro Uribe entre les années 2002 et 2010. On comptabilise 2248 victimes de cette sanguinaire stratégie et son successeur Duque a clairement montré que cette stratégie continuera à être utilisée pendant son mandat. L'organisation Somos Defensores déclare que lors du premier semestre 2019, ont eu lieu 591 agressions contre des leaders sociaux. 59 d'entre elles se sont terminées en homicide. En 2013, 78 défenseurs des droits de l'homme ont été tués. 5 ans plus tard, en 2018, le chiffre a doublé à 155 défenseurs. Parmi les victimes, on trouve des leaders indigènes, des afro-colombiens, des paysans et des défenseurs des territoires. Les dépôts des armes par les FARC ont mis en lumière ces leaders sociaux et leurs revendications, les intérêts économiques de leur territoire, la protection d'un pays entier. Le peuple colombien est fatigué de cette incessante guerre, de ces assassinats, de ces récurrentes violations des droits de l'homme, mais surtout de ne pas pouvoir s'exprimer librement. Le 21 novembre de cette année, les Colombiens sont sortis dans la rue pour manifester contre les gouvernements et ses réformes contre la retraite, l'augmentation des taxes sur la plupart des produits de la vie courante, la non-exécution de l'accord, les droits d'avoir une éducation de qualité et garantir la vie des leaders sociaux et la sécurité des territoires des indigènes. Lors de ces manifestations, plusieurs groupes d'indigènes de plusieurs régions se sont mobilisés et sont arrivés à la capitale, Bogota. Les artistes, les professeurs, les étudiants, tous se sont mobilisés pour se faire entendre auprès du gouvernement de Duque. Il y a encore quelques années, les Colombiens ne sortaient pas manifester par peur d'être confondus avec des guerrilleros. De nos jours, les gens qui manifestent sont plus divers. Il y a des personnes de tous les âges, des partis de gauche ou du centre, qui manifestent de façon plus pacifique qu'avant. Les manifestations sont devenues très culturelles, à tel point qu'il se crée des chansons avec des rythmes folkloriques. Cela montre d'ailleurs à quel point la société colombienne a trouvé une nouvelle manière de communiquer, même si persistent encore des actes de vandalisme, des dégâts dans les rues et dans les centres commerciaux. Les gouvernements n'hésitent pas à utiliser la force. Dylan Cruz, un étudiant de 18 ans, a été tué par une bombe lacrymogène tirée par un policier de l'ESMAD. La Defensoría del Pueblo a ouvert une enquête quant à l'usage de la force démesurée et a manifesté son mécontentement suite aux interdictions par la police des manifestations pacifiques. Elle exige le respect de la Constitution, qui garantit les droits à la libre expression. Des organisations internationales telles que les Nations Unies et les Human Rights Watch ont manifesté leur préoccupation envers l'usage excessif de la force. D'après la police nationale, ces manifestations ont laissé 769 blessés, 379 sont membres de la police et 390 sont manifestants. La Colombie, du moins son peuple, souhaite en finir avec la violence. Le peuple ne veut plus de guerre car il est fatigué. Fatigué par la mort de Dylan, par la condition des enfants de la Guajira ou des enfants des communautés indigènes et afro-colombiennes qui meurent à cause de la malnutrition et d'une pénible qualité de vie, par les renforcements de l'armée, par l'abus du pouvoir et l'interdiction à s'exprimer librement. Y recuerden, esto fue Una Noche en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino, Radio Campus 106.6 FM.